François Forget travaille à l'Institut Pierre-Simon Laplace, au laboratoire de météorologie dynamique. Et j'ai appris qu'il avait commencé non pas par la recherche, mais il a eu une formation d'ingénieur à Paris, à l'ENSTA, École nationale supérieure des techniques avancées. Ensuite, et il a commencé sa carrière comme ingénieur offshore. Vous voyez, c'est pas, voilà. Vous voyez, ça mène ici, dans ce modeste endroit. Ensuite, il est entré au CNES et à partir du CNES, a passé un an et demi à la NASA en Californie au laboratoire EMS. Et puis, voilà, tout ça a suffi pour être contaminé par le démon de la recherche, revenir et commencer une thèse sur le climat, les propriétés du climat de Mars. Donc Mars, on imagine que ça doit continuer encore à exciter l'imagination et à devenir quelque chose qui est très... C'est un suspense, quelque chose qui change tous les jours. Donc voilà, et ça nous conduit aujourd'hui à écouter cette... je pense que ça fait partie des problèmes, évidemment, qui sont posés quand on cherche à étudier Mars, donc à la recherche de planètes propices à la vie.
Je vais vous parler aujourd'hui de ce thème très très bateau, très classique, à la recherche des planètes propices à la vie, la recherche de la vie dans l'univers. Si vous venez souvent ici à l'Institut Astrophysique de Paris, aux conférences, on en entend souvent parler. Et je vais vous raconter peut-être une histoire telle que vous l'avez déjà entendue. Mais pour ma part, on vient de le dire d'un laboratoire qui spécialisait dans l'étude du climat, de l'environnement sur la Terre. Moi, je suis plutôt planétologue, je m'occupe du climat, mais des autres planètes. J'ai beaucoup travaillé sur la planète Mars, on travaille sur Vénus, Titan, Pluton, Triton, toutes les atmosphères telluriques qu'il y a dans le système solaire. Et sur cette base, depuis quelques années déjà, nous travaillons à comprendre les climats possibles et ce qu'on appelle l'habitabilité sur les autres planètes et comprendre ainsi sur ce thème à la recherche des planètes propices à la vie. Alors pourquoi le climat est si important? C'est que par exemple, si on regarde la Terre, eh bien on voit que la Terre, c'est une planète au climat stable et qui se caractérise par le fait qu'elle a été en partie couverte par de l'eau liquide pendant presque toute son existence, donc pendant des milliards d'années. Et donc, évidemment, c'est une planète propice à la vie et à son évolution. Alors, quand on s'intéresse à cette histoire de la vie dans l'univers, on passe par un certain nombre d'étapes obligatoires que beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, reconnaissent bien, qui est de savoir, par exemple, comment, quand on veut parler de la vie ailleurs, la question est de savoir s'y a-t-il d'autres terres ailleurs, donc les questions s'y a-t-il d'autres planètes au climat propice à la vie, et où a-t-on des chances de les trouver. Et donc, ce passage obligatoire, c'est bien sûr se poser la question, qu'est-ce que la vie, comment la définir, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, et je vais simplifier le problème, comme souvent on le fait dans nos domaines, qui est juste de dire que, autant qu'on puisse le comprendre sur Terre, la vie... tel qu'on peut l'imaginer, tel qu'on l'observe, mais aussi tel qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire tel qu'on peut imaginer une chimie vraiment aussi complexe que la vie, c'est toujours la chimie du carbone et en solution dans le liquide. Et personnellement, je m'amuse beaucoup à discuter avec des chimistes, des biochimistes un peu spécialisés, en essayant d'imaginer si on pourrait imaginer de la vie en solution du méthane, etc. C'est très difficile. Donc en fait, on simplifie l'équation, on se dit, la vie, ça va être... là où il y a de l'eau liquide. Et il se trouve que sur Terre, presque partout où il y a de l'eau liquide, vous le savez sans doute, on trouve de la vie. Et on va faire donc l'hypothèse inverse de dire, s'il y a de l'eau liquide, ce sera un environnement propice à la vie. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de savoir comment on passe du non-vivant au vivant. Personne ne comprend rien du tout à cela. Donc on va se limiter à un problème physique qui est où est-ce qu'on peut trouver de l'eau liquide. Alors de l'eau, il se trouve que dans l'univers, on a observé beaucoup d'endroits, diverses sortes de nuages moléculaires, etc. Et on voit qu'il y en a un peu partout. L'eau, H2O, évidemment, c'est une molécule très, très simple. Et donc, pour avoir de l'eau liquide, la vraie difficulté, bien sûr, il faut avoir de l'eau, mais c'est souvent d'être à la bonne température et éventuellement à la bonne pression. Donc là, vous avez un diagramme de phase de l'eau, comme vous avez déjà vu peut-être, si vous avez fait les études qui vont avec. Vous avez la pression, la température, et tout le monde, comme souvent on le sait, pour avoir de l'eau liquide, eh bien, il faut quand même un minimum de pression pour être au-dessus du point triple, qui correspond à 6,1 millibars, 6,1 hectopascales. Il faut une température supérieure à 0 degré, sinon on a de la glace. Et puis une température, il faut être en dessous du point d'ébullition, qui dépend de la pression, bien sûr. Donc si on est très près du point triple, c'est quelques degrés. Sur Terre, à Paris, c'est 100 degrés, et puis si elle a une pression supérieure, on peut aller jusqu'à plus de 300 degrés si la pression est suffisante. Voilà ce qu'il nous faut pour avoir de l'eau liquide. Sur cette base-là, là aussi vous connaissez déjà peut-être, on a défini le concept de la zone habitable. Donc, c'est pas une zone où on peut construire un 3 pièces cuisine, c'est une zone où on peut avoir simplement de l'eau liquide à la surface des planètes. Et je reviendrai sur ce petit détail, ce côté surface des planètes. Donc, dans ces conditions-là, on a rapide. Pourquoi une zone ? Parce qu'on s'est rapidement rendu compte, évidemment, que quand on est autour d'une étoile, si on est trop près de l'étoile, il va faire trop chaud, on n'aura que de la vapeur. Si on est trop loin, il va faire trop froid, beaucoup trop froid, on n'aura que de la glace. Et donc, il y a une zone, tout le monde le ressent bien, où on peut avoir de l'eau liquide. Et une question, bien sûr, ça va être de savoir quelle est la taille de cette zone habitable. Est-ce que la Terre est pile poil où il faut, ou au contraire, il y a une très très vaste zone où on pourrait toujours se débrouiller pour avoir de l'eau liquide et il n'y a pas de problème. Et ça, c'est vraiment, vous le comprenez, un problème de climat. Et c'est pour ça que, avec mon équipe de climatologues, on va dire, on s'intéresse à ce sujet. Alors, une première question qu'on se pose, c'est par exemple, quelle est la limite extérieure de la zone de vie ? On va prendre un exemple très simple, on est autour du Soleil. Et on se demande jusqu'à quelle distance on peut s'éloigner du Soleil et conserver de l'eau liquide à la surface. Alors si on fait cette expérience-là en prenant... On pourrait imaginer prendre la Terre et la bouger pour voir si ça marche. Évidemment, c'est très difficile à faire, mais on peut le faire avec des modèles numériques. Et je vous montre un exemple de calcul que l'on peut faire, qui n'est pas si facile à faire que ça. Ça a été fait par mon étudiant Benjamin Charnet au LMD, avec un nouveau type de modèle qu'on a fait, qui est capable de manière très autonome d'explorer une vaste gamme de climats. Et je vous montre ici une simulation si on prend la Terre et que soudain on l'éloigne de 12%. 12%, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et donc ça correspond à 79% de l'insolation actuelle. On réduit l'insolation actuelle et on fait tourner le modèle. Alors ce que je vais vous montrer ici, c'est une évolution, ça va être un petit film, qui va vous montrer l'évolution de l'albédo, c'est-à-dire, on va voir très très facilement qu'en bleu, c'est là où vous avez de l'eau liquide et les continents, et en blanc, c'est là où vous avez de la glace. Et ça, on va pouvoir voir ce qui se passe si on prend la Terre, on la bouge de 12%. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'en quelques années, donc on démarre là, on est à l'équinoxe de printemps, hein, c'est notre instant zéro dans nos modèles, et puis je vais démarrer, et vous allez voir rapidement que en refroidissant, en bougeant la Terre de simplement 12%, ça va refroidir la planète et rapidement vous allez avoir de la neige qui va s'asseoir sur les continents. Et puis ensuite la glace de mer va s'étendre et voilà ce qui va se passer. Donc là vous voyez le cycle saisonnier, la neige qui s'installe très rapidement. Et puis vous voyez que le climat diverge. On a déjà 4 ans, 5 ans. Et vous voyez la glace de mer qui commence à envahir, y compris descendre vers les tropiques. Bien sûr l'albédo, donc le fait que la Terre est très très brillante, augmente. Et on voit là une glaciation qui a lieu en quelques années. C'est vraiment très très rapide. Alors, il y a un peu de résistance au niveau des tropiques. Et puis, rapidement, alors, il y a un modèle à peu près réaliste d'océan hein, derrière ça, avec de la glace de mer, etc. Et puis, vous voyez qu'à partir de la 23e année, ça va quand même très, très vite, la Terre est complètement glacée. Et si je vous montre une carte des températures qui correspond à cette simulation, eh bien, on voit que, à Tombouctou, il fait moins 40. Et on a une planète qui est complètement différente de celle actuelle. Il fait beaucoup, beaucoup plus froid et la planète est entièrement englacée. Alors, pourquoi c'est une telle sensibilité? C'est très bête. C'est simplement, vous avez ici un phénomène de glaciation galopante. Vous avez une instabilité positive qui amplifie le refroidissement. Si vous diminuez un petit peu le flux solaire, la température bien sûr diminue un petit peu, mais vous avez plus de glace et de neige, et ça, bien sûr, ça fait augmenter l'albédo de la planète, c'est-à-dire que plus de flux solaire est réfléchi. Bon, c'est très bien connu, hein. Et donc ça fait diminuer la température. Il y a un emballement. Et là, je vous ai montré un exemple en bougeant la Terre de 12%. Selon les modèles. Il n'y a pas eu encore de travaux vraiment très sophistiqués, mais il existe des modèles qui disent que si on bouge la Terre de 1%, on a une glaciation totale. Il se trouve qu'en fait, une fois qu'elle est glacée et qu'on la ramène là où elle est, comme elle est englacée et qu'elle réfléchit beaucoup le rayonnement, elle reste glacée. Donc il y a un vrai problème. Donc on voit que la limite extérieure au premier ordre, avec un modèle actuel de la Terre, est très très près. On est quasiment à la limite pile poil où il faut. Alors, cela dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça correspond à l'histoire de la Terre telle qu'on peut la comprendre? En fait, pas du tout. Et si on regarde la Terre il y a 3,5 milliards d'années, on prend les archives géologiques depuis cette époque, hein, les plus anciennes archives géologiques, 3,5, 3,8 milliards d'années, nous indiquent que la Terre a toujours été habitable, malgré le fait qu'en fait, le Soleil, lui, était moins brillant qu'aujourd'hui. En fait, par exemple, il y a 3,5 milliards d'années, le jeune Soleil était environ 25% plus faible qu'aujourd'hui. La raison pour laquelle il était plus faible, c'est qu'à l'époque, le cœur était plus riche en hydrogène, vous aviez plus d'hydrogène. C'était toujours un peu compliqué à raconter, mais il y avait plus de... la pression interne était... On va dire que la densité était plus faible, on va dire ça comme ça. Et donc, le moteur était moins efficace. Et donc, le Soleil était à peu près 25% moins brillant qu'aujourd'hui. Et progressivement, il est venu à la luminosité actuelle. Donc c'est comme si la Terre était 16% plus loin du Soleil qu'aujourd'hui, mais donc bien plus loin que la limite que je vous ai montrée. Et pourtant, on avait à l'époque de l'eau liquide. Et en fait, tout indique, dans les archives géologiques, à part quelques petits épisodes dont je ne vais pas avoir le temps de parler aujourd'hui, tout indique qu'en fait, il y a toujours eu de l'eau liquide à la surface de la Terre, pendant presque toute l'histoire de la planète. Et le plus souvent, d'ailleurs, le climat était plutôt plus chaud qu'aujourd'hui. La plupart du temps, dans l'histoire de la Terre, il n'y avait pas de calottes glaciaires, il n'y avait pas d'Antarctique, il n'y avait pas de Groenland, il n'y avait pas ces Inland 6 de glace. On a plutôt un climat plus chaud qu'aujourd'hui. Alors, comment expliquer ça alors que le Soleil était aussi faible? La raison, vous la connaissez sans doute, c'est que bien l'atmosphère était différente, le système climatique était différent. Donc, c'est ce paradoxe qu'on appelle en anglais le Fent-Jonsson paradoxe, en français le paradoxe du Soleil faible. Il y a toujours, tous les ans, des articles qui proposent des nouvelles solutions. C'est un sujet de recherche pas très actif, mais dans lequel on a souvent des articles dans Nature et Science, un petit peu intéressant comme ça. Et en gros, la solution classique, c'est quand même de dire qu'on a un fort effet de serre d'une atmosphère. Donc actuellement, on a une atmosphère d'azote, d'oxygène, avec un effet de serre faible, quoi qu'on en dise. Bien sûr, le CO2 augmente, et ça, c'est un problème. Mais là, en l'occurrence, il fallait vraiment un très fort effet de serre. Donc on imagine qu'au moins au début, il y avait beaucoup de dioxyde de carbone, gaz à effet de serre, comme tout le monde le sait. Peut-être, à une certaine époque, le méthane a pris le relais, etc. On avait une atmosphère avec beaucoup plus d'effet de serre. Donc, il a fallu quelque chose de spécifique qui se passe pour que la Terre reste propice à l'eau liquide et habitable. Ce qui est surtout impressionnant dans cette histoire, c'est qu'alors que le Soleil a vu sa luminosité évoluer pendant des milliards d'années, la Terre s'est toujours adaptée et a toujours su rattraper les problèmes climatiques qu'il y a pu y avoir. Il y en a eu plusieurs. La Terre s'est englacée à certaines reprises, elle s'est sortie de sa glaciation, etc. Elle s'est toujours adaptée. Et ça, c'est vraiment un phénomène qui est quand même très, très intéressant. Alors, lorsqu'on s'intéresse en détail au système climatique terrestre, on se rend compte qu'on a identifié un mécanisme qui permet un véritable thermostat géophysique qui a permis de maintenir le climat comme il est actuellement. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire. Ce thermostat géophysique, c'est le cycle carbonate-silicate qui a été proposé par Walker à Chicago en 81. Et depuis, je dois vous dire, il y a beaucoup d'articles qui confirment vraiment la réalité de tous les mécanismes que je vais vous décrire maintenant. Alors, ces mécanismes sont les suivants. Vous imaginez la Terre telle qu'on la connaît, donc ça, c'est décrit la Terre actuelle. Et vous avez, bien sûr, un peu de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, de CO2. Actuellement, sur Terre, vous avez, au niveau de la végétation, au niveau des rivières, le CO2 qui se dissout. Et en même temps, l'eau qui lessive les surfaces dissout les silicates et emmène tout ça, donc weathering, c'est le lessivage, sous forme d'ions dans l'océan. Dans l'océan, les ions, puisque vous avez ce cycle, vous savez, le cycle de l'eau liquide, le cycle hydrologique terrestre, le cycle de l'eau, vous avez évaporation, mais les ions restent derrière, ils se concentrent. Et au-delà d'une certaine concentration, eh bien, il y avoir une réaction chimique qui va faire qu'ils vont se précipiter, donc les ions Ca2+, par exemple, dans notre exemple, vont précipiter avec les ions HCO3-, donc de CO2 dissous, pour former des carbonates. Alors actuellement, cette réaction est faite par les foraminifères, les petits animaux qui font des petites coquilles. Mais même en absence d'animaux, on peut imaginer que ça va se faire quand même au-delà d'une certaine saturation, ça a été démontré. Donc ces carbonates tombent au fond, sur le plancher océanique, au fond des océans. Et puis ensuite, vous avez le phénomène de tectonique des plaques qui fait que le plancher des océans n'est pas stable aux échelles géologiques et rapidement, en quelques millions d'années, vous avez ces carbonates qui vont être recyclés et qui vont plonger sous les croûtes continentales, dans les zones de subduction. Et là, à très haute température et très haute pression, eh bien, vous allez avoir du métamorphisme, c'est-à-dire que ces ions, par exemple CaSO3, les carbonates vont à nouveau réagir, ça va reformer du CO2, et ce CO2 va diffuser dans la croûte et finalement ressortir au niveau des volcans sous forme de dioxyde de carbone. Donc vous avez ce fameux cycle de carbonate silicate, très bien observé. On voit très très bien, par exemple, que le CO2 qui sort au niveau des volcans au Chili a la même signature isotopique que les carbonates qui sont juste au pied, au niveau de l'océan Pacifique. Alors, pourquoi cela forme un thermostat? C'est pour les raisons suivantes. Si vous avez, imaginons, la température de la surface, TS ici, qui diminue, par exemple, je ne sais pas, le soleil devient plus froid, bon, le soleil est très stable, mais vous avez une glaciation, comme on pense l'avoir vu dans les archives géologiques, à ce moment-là, puisqu'il fait plus froid, le cycle de l'eau, qui dépend beaucoup de la température, va diminuer. C'est-à-dire qu'on va avoir moins de précipitations, moins de lessivage, moins de rivières qui va amener des ions. Donc, moins de lessivage. Et donc, le puits de gaz carbonique qui est ici va diminuer. Et donc, comme pendant ce temps-là, on continue à dégazer du CO2 au niveau des volcans, vous allez avoir accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, augmentation de l'effet de serre, et donc stabilisation de la température de surface. Alors ça paraît incroyable, ça paraît un peu magique, et c'est vraiment très bien observé et assez bien démontré dans de nombreux articles que j'essaye de suivre, c'est pas ma spécialité, mais qui sont assez intéressants. Donc c'est ça, c'est ce système-là qui a priori a fait fonctionner la machine climatique de la Terre pendant des milliards d'années pour maintenir des océans à la surface. Alors une fois qu'on se dit que la Terre est capable de s'adapter, qu'une Terre, une planète est capable de s'adapter, on va se poser la question, à ce moment-là, où est la limite extérieure de la zone habitable? On va dire, par exemple, que ça va être là où on prend la Terre, maintenant on sait qu'elle est capable de cracher beaucoup de CO2, jusqu'où on peut aller? Alors on peut faire des calculs, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez ici un calcul de James Casting, déjà ancien. Voici le flux minimal pour avoir une température moyenne sur la Terre au-dessus de 0 degré, pour avoir des océans, pour une différente pression. On voit que, donc c'est le flux solaire, hein. On voit que si on augmente la pression, on peut aller plus loin, plus loin, plus loin. Et puis, au-delà d'une certaine pression, l'effet de serre du CO2 marche pas trop parce que on accumule l'épaisseur, l'atmosphère devient très épaisse et elle a tendance à beaucoup réfléchir le rayonnement solaire par diffusion Rayleigh, pour ceux qui connaissent. Et donc, l'effet de serre va saturer. Et le maximum d'effet de serre qu'on peut trouver, c'est pour ça qu'il y a cette courbe avec un beau minimum, c'est à peu près à 1,67 fois la distance Terre-Soleil, 1,67 fois 1,67 unités astronomiques. Cela dit, on a exploré d'autres mécanismes, d'autres gaz à effet de serre. Finalement, on a trouvé qu'il y avait un mécanisme qui était extrêmement efficace. Et personnellement, c'est des travaux que j'ai effectués à l'époque pour essayer de comprendre comment la planète Mars, il y a 3,6 milliards d'années, a pu être propice à l'eau liquide. Elle est exactement à peu près à cette limite-là, hein, l'équivalent d'une 1,7 fois unité astronomique à l'époque, en termes de flux solaire pour le Soleil actuel. Et on a pu trouver que quelque chose qui pouvait jouer un grand rôle, c'était quelque chose d'un peu exotique, ce sont dans cette atmosphère de CO2 telle qu'on peut l'imaginer, vous avez formation de nuages de glace carbonique. Alors, le nuage de glace carbonique, à l'œil, il ressemble au nuage d'eau, mais dans l'infrarouge thermique, ils ont une capacité très particulière de réfléchir le rayonnement, ce que ne peuvent pas faire nos nuages sur Terre. Et ça permet un très fort effet de serre, par réflexion, en faisant des calculs, on a pu montrer qu'en fait, on pouvait vraiment, en étant optimiste, en mettant une couverture complète de nuages de glace carbonique, dont la formation est inévitable, on pouvait aller jusqu'à 2,5 unités astronomiques, 2,5 fois la distance Terre-Soleil. Donc là, vous voyez, on a une beaucoup plus grande zone habitable. Mais ça, bien sûr, ça nécessite, je l'ai dit tout à l'heure, le phénomène de tectonique des plaques. Et ces dernières années, je me suis intéressé à ce problème-là. Je me suis dit quand même, est-ce que c'est probable que d'autres planètes connaissent ce phénomène de tectonique des plaques? Par exemple, dans le système solaire, on n'a pas d'autres exemples. La Terre est absolument unique et il n'y a rien qui s'en approche sur les autres planètes. Alors, si on s'intéresse un petit peu à mes collègues géophysiciens qui s'intéressent à ce problème théorique, eh bien, on voit que l'origine et les mécanismes qui sont à l'origine des tectoniques des plaques ne sont pas très bien compris. Tel qu'on peut le résumer, par défaut, on pourrait dire que les planètes pourraient avoir toutes, en général, une lithosphère très épaisse. Donc, lithosphère, c'est la croûte, puis la partie supérieure du manteau qui est rigide, hein, c'est le bouclier, c'est la plaque, très épaisse. Et a priori, pas de tectonique des plaques et pas de recyclage dans l'atmosphère. Alors, pour permettre une tectonique des plaques, d'après mes collègues géophysiciens, il faut casser cette lithosphère, cette plaque unique qui est autour de la plupart des planètes. Et pour cela, il faut un moteur. Le moteur, c'est le fait que le manteau qui est en dessous, la sténosphère, qui est plus ductile, si vous voulez, dans lequel vous avez de la convection, sur Terre en tout cas, et sur la plupart des planètes, eh bien, il faut que cette convection soit suffisamment intense, d'une part pour réduire l'épaisseur de la lithosphère, et d'autre part pour fracturer cette plaque, les plaques qui sont à la surface, la lithosphère qui est à la surface de la planète. D'autre part, il y a une autre théorie qui dit qu'en fait, le moteur actuel de la tectonique des plaques, dont je voulais le mentionner, parce qu'il y a quand même pas mal d'articles sur ce sujet, nous disent que, en fait, le vrai moteur, c'est la subduction. C'est les plaques qui sont à la surface qui sont froides, et elles plongent, elles coulent, sous les plaques continentales, par exemple. Et c'est ça qui vraiment tire les plaques dans ce système de tectonique des plaques que vous connaissez, avec les rifts au milieu, etc. Bon, on ne va pas trancher là-dessus. Mais une fois qu'on sait ça, on comprend mieux le débat scientifique qui a lieu pour essayer de comprendre si on peut avoir la tectonique des plaques facilement ou pas sur d'autres planètes autour d'autres étoiles. Alors, au premier rang, déjà, on peut s'intéresser à la taille. Sur les petites planètes, par exemple comme Mars, On comprend très vite que, comme elle est petite, le refroidissement interne, l'énergie interne est plus faible par rapport à la surface. On a un refroidissement interne rapide. On a un faible stress convectif, peu de convection, ce qui fait que la lithosphère est épaisse. Et donc, c'est pour ces deux raisons-là, on ne va pas avoir tectonique des plaques, à long terme en tout cas, et sur Mars, on n'en observe pas. Maintenant, comme je le mentionnais tout à l'heure, on observe de plus en plus de planètes qui sont plutôt plus grosses que la Terre. Ce qu'on va appeler des super-Terres. Et là, c'est assez intéressant de savoir si la tectonique des plaques va être quelque chose d'évident ou pas. Alors, au premier ordre, si vous regardez un peu la littérature, il y avait un très bel article en 2007, publié par Diana Valencia, et dont le titre était assez éloquent, « Inevitability of plate tectonics on super-Earth ». Ok, là, c'est tranché. Donc, elle démonte, elle dit « ça va être plus gros, plus d'énergie, plus de convection, aucun problème, on va inévitablement avoir cette tectonique des plaques, et donc, pas de problème pour notre cycle du CO2, stabiliser le climat, etc. » Mais ensuite, à la même époque, presque en même temps, une autre équipe, O'Neill et Leonardi, a montré que, mais comme la dimension du manteau augmente, il se trouve que pour des raisons de modélisation, on peut le modéliser des raisons physiques, la convection va être moins efficace et ça atténue le stress convectif. Et donc, eux, ils concluent, Super-Size Earth, donc les super-terres, vont probablement être dans un épisode stagnant lead regime, c'est-à-dire avec une seule grosse plaque. Bon. Sur cette base-là, il y a quelques années, j'ai contacté les collègues que je connais un peu mieux, qui travaillent aussi sur Mars, pour ça que je connais, Doris Brauer en Allemagne, je lui ai dit, bon, qui a raison? Elle m'a dit, ni l'un ni l'autre, parce qu'en fait, il y a encore un autre problème, et cette équipe vient juste de sortir un article, ils ont même fait un communiqué de presse, qui dit qu'en fait, le problème le plus important, c'est pas celui-là, c'est le fait que dans les super-terres, donc dans lesquelles, près du cœur, vous avez des pressions plus importantes que sur la Terre actuelle, la viscosité est telle que ça limite la convection et probablement limite le fait d'avoir de la tectonique des plaques. Donc plutôt d'accord, on va dire, avec le deuxième point. Bref, on peut se poser la question de savoir si la Terre pourrait être pile poil à la bonne taille pour avoir la tectonique des plaques. C'est intéressant. On se rend compte que la Terre peut être assez spéciale de ce point de vue-là. Alors vous allez me dire, mais que dire de Vénus? Vénus, il se trouve à peu près à la taille de la Terre, à quelque chose près. C'est presque la même chose. Et pourtant, il n'y a pas de tectonique des plaques sur Vénus. Alors, il y a là aussi une littérature tout à fait intéressante qui débat de ce sujet-là. Vénus, la géologie de Vénus est assez bien connue grâce à la mission Magellan dans les années 90. Et en fait, ce que l'on pense comprendre à présent, et de plus en plus de chercheurs sont d'accord sur ce sujet, c'est que la raison pour laquelle Vénus n'a pas de tectonique des plaques, n'a pas un manteau suffisamment actif pour avoir la tectonique des plaques, c'est que ce manteau est extrêmement sec. Il manque d'hydratation. L'eau, pour simplifier, est un lubrifiant dans ce système-là, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, ça change la viscosité et ça limite, en fait, c'est probablement l'explication pour laquelle Vénus n'a pas de tectonique des plaques. Et donc, on peut aussi se dire que la tectonique des plaques requiert un manteau hydraté. Alors, évidemment, s'il faut la tectonique des plaques pour avoir de l'eau liquide, s'il faut avoir de l'eau liquide pour avoir la tectonique des plaques, bon, ça va, d'une manière ou d'une autre, marcher. Mais en tout cas, c'est des choses à avoir en tête. Voilà, fin de mon petite excursion géophysique et je reviens sur l'autre limite. On a fait la zone extérieure, la limite extérieure de la zone habitable, on va arriver sur la limite intérieure de la zone habitable et se poser la question, comme tout à l'heure, si par exemple je prends la Terre, jusqu'où je peux l'approcher en gardant des océans à la surface, par exemple. Et là, encore, on rencontre rapidement une limite avec une rétroaction positive qui emballe le système. Si on augmente un petit peu le flux solaire dans un climat terrestre, la température augmente, on augmente la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère et ça fait augmenter l'effet de serre et donc augmenter les températures et vous avez une vraie amplification de cette petite augmentation initiale. Et les calculs historiques qui servent encore de référence par James Casting nous disent que si on approche, on prend la Terre et qu'on l'approche simplement de 16%, à ce moment-là, la température va venir extrêmement élevée, les océans vont bouillir et toute l'eau va passer sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en faisant ces calculs, James Casting s'est rendu compte qu'il y avait un problème avant même d'arriver à cette distance, en s'approchant simplement de 5% du Soleil. Il a montré que dans son modèle atmosphérique, il y avait un problème, c'est que la haute atmosphère chauffe, s'humidifie et qu'on perd l'eau dans l'espace en quelques centaines de milliers d'années. Maintenant, on dirait plutôt quelques millions d'années. Alors, je vais essayer de vous raconter quel est ce mécanisme. Vous avez ici un schéma très simple, c'est l'altitude et la température, un profil de température moyen à la surface d'une planète comme la Terre. Vous avez ici le rayonnement, vous avez ici le soleil qui chauffe. Ça ne devrait pas apparaître. Et puis on imagine qu'on augmente le rayonnement solaire. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, la température va augmenter, l'effet de serre augmente, ça va augmenter assez fortement, et il va se trouver quelque chose d'intéressant, c'est que l'eau va pouvoir passer dans la haute atmosphère. En effet, actuellement, sur Terre, vous avez de la vapeur d'eau dans la basse atmosphère, mais rapidement, quand on arrive en haut de la troposphère, vers 10 000 mètres, si vous voulez, il fait très très froid. En avion, on sait bien, il fait moins 50, moins 60, ce qui fait que toute la vapeur d'eau condense sous forme de nuages et retombe sous forme de cristaux. Il n'y a presque pas d'eau qui monte dans la stratosphère qu'il y a sur Terre et au-dessus. Ce qui fait que la haute atmosphère de la Terre est complètement sèche. L'eau est complètement piégée dans la basse atmosphère. Si maintenant on augmente un peu la température, il se passe le phénomène suivant, c'est que vous allez remonter, ce qu'on appelle ici le piège froid, et vous allez permettre à l'eau de monter à de très hautes altitudes. Et là, elle va être exposée au rayonnement ultraviolet extrême, on dit ça, très énergétique, qui est capable de casser la molécule d'eau. Lorsqu'elle est dans la basse atmosphère, pas de problème, elle ne peut pas être cassée. Mais dans la haute atmosphère, c'est un problème. Et là, donc H2O va être cassé sous forme de OH et H, et les atomes d'hydrogène ici vont prendre des vitesses extrêmement rapides, puisqu'ils sont très légers, et vont être capables d'être éjectés dans l'espace. Et on peut perdre rapidement l'eau de la Terre via ce phénomène, en bougeant la Terre, d'après ce modèle, de simplement 5%. Donc c'est assez inquiétant. Je vous montre ici un petit graphe qui résume, hein, toujours issu des travaux de Jim Casting. Vous avez ici le flux solaire qui augmente. 1, c'est la valeur actuelle. Et vous avez ici la température moyenne à la surface. Quand on augmente un peu le flux solaire de 20%, ou là, ici, vous avez ici, c'est 0,84 unités astronomiques, c'est le 16% dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez que la température, vous avez un effet de serre énorme. Toutes les océans, la totalité des océans, de la vapeur, de l'eau des océans passe sous forme de vapeur dans l'atmosphère, et la température à la surface de la planète dépasse 1000 Kelvin, 1000 degrés. Et puis avant cela, on voit ici le rapport de mélange dans la haute atmosphère sur la Terre, et on voit que là, vous avez ici un effet pareil, avec une forte instabilité, et brutalement, on passe d'un rapport de mélange très très faible, ici 10.6, à quasiment une stratosphère complètement saturée, voire remplie d'eau. Donc ça, ça arrive simplement en bougeant à 0,95 unités astronomiques, donc une limite très voisine. Alors tout ça est basé sur des modèles extrêmement simplifiés, hein, des modèles unidimensionnels, et on aurait envie de faire un peu ce que je vous ai raconté. Avant ça, je vais juste dire un mot sur Vénus. On a un exemple classique de cette histoire-là qui semble exister dans notre système solaire. En tout cas, si on imagine que Vénus, grâce par exemple au fait que le Soleil était plus faible lorsqu'il était plus jeune, si on imagine que Vénus a commencé comme la Terre, avec des océans à la surface, eh bien, on peut comprendre à peu près ce qui est arrivé à Vénus. On peut imaginer que le Soleil était de plus en plus lumineux, à un moment donné, on a évaporé les éventuels océans et on a perdu l'eau dans l'espace. Et à ce moment-là, le cycle de l'eau, vous savez, celui qui contrôle la quantité de gaz carbonique sur la Terre, dans l'atmosphère, s'est arrêté, et à ce moment-là, tout le CO2 qui était éventuellement piégé sous forme de carbonate dans le sous-sol, ont été recyclés, et se sont accumulés dans l'atmosphère. Et on retrouve la planète Vénus qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire avec une énorme atmosphère de CO2, la totalité de l'inventaire de CO2 dans l'atmosphère. Vous n'avez plus de vapeur d'eau quasiment sur Vénus, très très peu, l'équivalent d'une comète de Halley, si vous voulez. Et puis voilà. D'ailleurs, une information, ceci est arrivé il y a plus de 800 millions d'années, c'est l'âge de la surface de Vénus. Et donc ça nous donne une limite empirique, en tout cas pour une planète type Vénus-Terre, si vous voulez, ça suggère que ce n'est pas facile, en tout cas, en dessous de 0,75 unités astronomiques, de garder des océans d'eau liquide sans devenir Vénus. Alors, ce que je disais à l'instant, c'est que tous ces travaux-là ont pour l'instant été faits avec des modèles très simples. Et avec mon équipe, et en particulier un postdoc, Jérémy Lecomte, on est en train de développer un modèle qui est capable de simuler cet effet de serre divergent, cet emballement du climat, etc. Il se trouve actuellement, si on prend un modèle de climat typique, terrestre, et qu'on augmente un tout petit peu le flux solaire, eh bien, vous avez vraiment explosion de la quantité de vapeur d'eau dans le modèle, et le modèle crash numériquement. Donc il faut un modèle plus robuste, ce qu'on est en train de développer, et ça marche pas mal. Et pour vous dire, je peux pas présenter ces résultats, mais les résultats préliminaires sont incroyables, c'est-à-dire qu'on a vraiment une instabilité climatique assez rapidement, qui nous donnerait finalement, si on croit les modèles bien sûr, l'impression qu'on n'est pas loin de cette limite où le climat peut s'emballer. Donc voilà, si je résume, la zone de vie, la zone habitable autour d'une étoile de type solaire, on a un certain nombre de valeurs empiriques parce qu'on sait que Vénus n'a pas fonctionné, Mars a fonctionné mais il y a longtemps, et puis on a une limite probable si on tient compte de la tectonique des plaques à 0,95 unités astronomiques ici, à 1,65 unité astronomique de l'autre côté. Et puis, si vraiment on essaie d'optimiste, on prend en compte les nuages, une protection, etc., on peut imaginer cette dimension-là. Alors, un petit mot pour dire quand même, depuis le début, je parle de la zone habitable en termes d'eau liquide à la surface. En pratique, il faut savoir qu'au-delà de cette limite eau liquide en surface, on peut imaginer qu'il y ait de l'eau liquide sous la surface, grâce à la chaleur interne. Si on prend la Terre et qu'on la met au niveau de Jupiter, elle va s'englacer, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais au niveau des rifts volcaniques, etc., pendant un moment, il va y avoir des poches d'eau froide, des nids. Jamais vous allez pouvoir geler les océans jusqu'au fond. Et puis, on a même des exemples encore plus spectaculaires pour les satellites de Jupiter et de Saturne, où vous avez un chauffage par effet de marée à l'intérieur, qui fait que, par exemple, si je prends l'exemple d'Europe autour de Jupiter, vous connaissez, beaucoup d'entre vous, je suis sûr, connaissent cet exemple, Europe autour de Jupiter, donc qui est soumis à cause des perturbations, les autres satellites de Jupiter, à une orbite légèrement perturbée, évidemment, l'énorme Jupiter ici crée de très forts effets de marée, c'est-à-dire que, un peu comme sur Terre, vous avez les océans qui bougent, là, vous avez l'intérieur de la planète qui bouge, c'est une planète très riche en glace, et la friction liée à ces mouvements va chauffer l'intérieur. Et on pense que l'Europe a une structure comme ici, avec un cœur en silicate, hein, des centaines de kilomètres ou une centaine de kilomètres d'eau liquide, le tout protégé de l'espace par une croûte de quelques kilomètres de glace. Et là, vous avez vraiment un véritable environnement d'eau liquide en interaction avec d'éventuels volcans, donc quelque chose d'intéressant. Un autre exemple, c'est Encelade autour de Saturne. Et là aussi, dans la région sud, on pense qu'il y a des poches d'eau liquide. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire. Pareil, lié probablement aux forces de marée, avec éjection des véritables geysers avec des particules, avec non seulement des molécules d'eau, mais des molécules assez intéressantes qui sont observées par Cassini actuellement autour de Saturne. Alors, on voit, et on me le dit souvent, quand je parle de cette habilité, il y a toujours quelqu'un qui lève la main et qui dit « Oui, mais c'est ridicule, vous ne prenez pas en compte le fait qu'il y a de l'eau liquide partout, dans ces satellites. » Et c'est vrai. Et sur cette base-là, avec Helmut Lammer, un collègue autrichien, il y a eu la définition de quatre types d'habitabilité, pour poser un peu le problème. La classe 1 d'habitabilité, c'est les planètes avec de l'eau liquide permanente en surface, comme la Terre. La superclasse, la Cadillac. La classe 2, On l'a inventé parce que ça correspond un peu à Mars, un peu à Vénus. C'est une planète pour laquelle correspondre à Mars et à Vénus, sur lesquelles on pourrait temporairement être propice à l'eau liquide. Et puis ensuite, on perd cette capacité. Alors c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on peut avoir l'origine de la vie dans des conditions avec de la lumière, etc. Puis ensuite, la vie va s'adapter et pouvoir se retirer, par exemple, dans le sous-sol ou des choses comme ça. La classe 3, c'est un corps avec un océan sous la surface en interaction avec un manteau rocheux. Ça, c'est Europe. C'est quelque chose d'assez intéressant. On évoque parfois le fait que l'origine de la vie sur Terre, une des possibilités, c'est justement au fond des océans, avec l'interaction avec du volcanisme sous la surface, avec beaucoup d'énergie chimique disponible, etc. Et puis la classe 4, c'est un corps avec un océan sous la surface, mais cette fois-ci, lorsque le corps est plus épais, au-delà d'une certaine pression, l'eau ne peut plus être liquide, elle redevient glace. Alors, c'est pas la glace telle qu'on la connaît, c'est une glace à très haute pression. Ce qui fait qu'à ce moment-là, et c'est le cas par exemple sur Ganymède ou Callisto, on pense qu'il y a un océan d'eau liquide, mais coincé entre deux couches de glace. Donc, une eau extrêmement, avec quand même très peu de nutriments et de possibilités pour démarrer la vie. Alors, quand on regarde cela et qu'on s'intéresse à la détection de vie sur les autres planètes, voire à l'évolution d'une vie intelligente avec laquelle on pourrait communiquer, on se rend compte que c'est quand même un problème d'être dans ces cas-là. Donc, bien sûr, il n'y a aucune lumière qui atteint, aucune énergie lumineuse et pas de photosynthèse possible à l'intérieur de la glace. Et encore moins ici, là, vous avez vraiment un problème d'énergie chimique. Donc, on écarte, a priori, de manière consciente et chauvine, ces cas-là, parce que, vu que pour l'instant, on est absolument incapable de détecter la moindre chose sur Europe ou Callisto ou Ganymède, on se doute bien qu'autour d'une étoile à 20, 40 années-lumière, ce sera encore plus difficile. Et on va se concentre dans cette notion d'habitabilité sur l'eau liquide en surface. Alors, je vous ai parlé de l'habitabilité de l'eau liquide sur une planète à un moment donné. Il faut quand même se poser la question du fait que le temps est nécessaire à l'évolution si on veut simplement pouvoir détecter cette vie et encore mieux pouvoir discuter avec elle. Alors sur Terre, le temps a été incroyablement long. Il a fallu, donc si on imagine que la Terre s'est formée, on sait que la Terre s'est formée il y a environ 4, 5, etc. de milliards d'années, la vie apparemment est apparue assez vite. La vie, une vie simple, enfin simple, c'est très compliqué la vie, mais une vie bactérienne est apparue assez vite, il y a 3,8, 3,5 milliards d'années, il y a toujours un débat. Une vie multicellulaire semble être apparue il y a 1,4 milliard d'années, ça c'est le chiffre standard. Là aussi, il y a eu des articles passionnants qui suggèrent quelque chose un peu plus tôt. Une vie animale, en tout cas, qui correspond à l'embranchement d'où on descend, il y a 600, 500 millions d'années. Et puis, l'intelligence, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle est apparue, est-ce qu'elle est apparue déjà. Bon, il y a quand même une définition utilisable pour l'intelligence, c'est la capacité à construire des radiotélescopes. Donc nous sommes intelligents depuis une cinquantaine d'années pour pouvoir discuter avec nos voisins. En tout cas, il faut des milliards d'années. En gros, c'est ça, pour que la vie, peut-être pas apparaisse, mais qu'elle évolue, qu'une vie complexe puisse apparaître. Alors, on ne comprend pas trop pourquoi il faut tout ce temps-là. C'est quelque chose qui est vraiment très, très méconnu. Néanmoins, la Terre est quand même un endroit extraordinaire, car elle est restée habitable pendant des milliards d'années, toute son existence. Alors, bien sûr, il y a des problèmes. Un premier problème qu'on a déjà un petit peu évoqué, c'est le fait que les étoiles évoluent. En particulier, si je reste dans mon exemple du Soleil, le Soleil est devenu de plus en plus brillant. Et si on regarde l'évolution de la zone habitable autour du Soleil dans le temps, on voit que cette zone habitable bouge. Donc vous avez ici le temps en milliards d'années, vous avez ici les orbites de Mercure, Vénus, Terre et Mars, et puis vous avez ici la zone habitable telle que je l'ai définie tout à l'heure, une espèce de zone probable, je pense très optimiste pour être sincère, mais bon, probable, et puis une extension maximale possible. Alors qu'est-ce que l'on voit ? On voit que Mercure a toujours été vraiment trop près, elle est un peu trop petite de toute façon, donc ça n'a pas marché. Vénus, elle... On peut spéculer qu'elle aurait pu fonctionner au départ, mais ce que l'on sait d'une manière assez forte, c'est que quand on arrive ici au présent, bah, elle ne fonctionne plus. Alors peut-être qu'elle a démarré pas comme la Terre, il n'y avait peut-être pas d'eau, pour un certain nombre de raisons qu'on ne comprend pas. En tout cas, elle n'est actuellement en tout cas plus habitable. La Terre est très intéressante, elle a commencé un petit peu loin du bord interne de la zone habitable, d'où la nécessité d'avoir un effet de serre, je répète un peu ce que j'ai raconté. Et puis, on est actuellement ici. Et ce que l'on voit, c'est que, comme le Soleil devient de plus en plus brillant, d'ici quelques centaines de millions d'années, on peut imaginer que la Terre va connaître finalement le destin de Vénus et que ce sera probablement une des fins du monde possible. Le fait qu'on va perdre la totalité des océans dans l'espace et qu'on va devenir plutôt comme Vénus. Mars, elle, est un cas intéressant aussi. Elle a plutôt démarré un peu loin, un peu froide. Mais on sait qu'à cette époque-là, elle était probablement propice à l'eau liquide. On voit des lits de rivières, etc., comme vous le savez sans doute. Et puis, peu à peu, elle devient de plus en plus habitable. Malheureusement, Mars est un peu petite, elle a perdu son atmosphère. Et tout ça m'amène sur mon point suivant, après ce problème d'évolution des étoiles. Donc, il faut rester toujours dans la zone habitable malgré l'évolution des étoiles. Il faut aussi savoir conserver son atmosphère, ce que n'a pas su faire Mars. Donc, un petit mot sur l'échappement de l'atmosphère. Alors, conservation de l'atmosphère, puis je mentionne aussi très vite ici la stabilité climatique, le fait que je l'ai déjà raconté, qu'il faut une tectonique des plaques, peut-être, pour rester habitable avec de l'eau liquide aussi longtemps. Un petit mot cependant au sujet de la conservation de l'atmosphère. Il y a quand même un problème possible qu'il y a l'échappement de l'atmosphère. Alors ça, c'est un très vaste sujet sur lequel je travaille un peu et qui mérite un peu réflexion. Et je vais essayer de vous simplifier l'histoire. Bon, le problème, c'est que toutes les planètes qui vont être dans la zone habitable, bien sûr, ne vont pas être habitables parce qu'il faut la bonne atmosphère. On a mentionné tout à l'heure l'histoire du recyclage par la technique des plaques, mais il faut déjà conserver une atmosphère qui va bien au départ. Et pour ça, il ne faut pas la perdre dans l'espace. Par exemple, la Lune, qui est par définition dans la zone habitable, à côté de la Terre, n'a pas d'atmosphère, donc n'est pas habitable. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle a perdu son atmosphère. Elle a perdu tous ses gaz atmosphériques. Alors, au premier ordre, l'échappement, donc la perte des gaz dans l'espace, dépend au premier ordre de la gravité, c'est-à-dire de la masse de la planète. On voit bien que la Lune est trop petite. Avec la gravité de la Lune, tout s'éloigne dans l'espace, tout se perd dans l'espace. Et puis aussi de la température de la très haute atmosphère, ce qu'on appelle l'exobase, et qui ne dépend pas tellement de l'insolation moyenne, mais qui dépend du flux extrême ultraviolet, du vent stellaire éventuellement, et qui est très fort chez les zones étoiles. Ça, c'est un point important, je ne vais pas trop détailler. Mais le moment où c'est le plus dur de conserver son atmosphère, c'est au début, lorsque le Soleil est très actif, par exemple, ou une étoile est très active. Et puis enfin, un problème important, c'est que ça dépend aussi de la composition de cette haute atmosphère au niveau de l'exobase. Si vous avez du CO2, par exemple, le CO2, c'est un gaz à effet de serre, rayonne très bien dans l'infrarouge thermique et refroidit la thermosphère et limite l'échappement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la Lune est trop petite. Mars, ça suggère, on a l'impression que Mars était aussi trop petit, donc il doit avoir une limite qui va bien dans le système solaire, qui doit être entre la Terre et Mars, pour faire très simple. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, bah, le collègue Aïmou de la Mer, dont j'ai parlé tout à l'heure, en tout cas quelqu'un de son équipe, vient de publier un article qui montre que si la Terre avait eu la composition qu'elle a actuellement, et qu'elle avait été là il y a 4 milliards d'années, à l'époque où le Soleil était plus jeune, moins brillant certes, mais avec un flux extrême ultraviolet plus intense, la Terre aurait dû perdre la totalité de son atmosphère. Elle a été sauvée parce qu'à l'époque, elle y avait du dioxyde de carbone dans son atmosphère. Sinon, elle aurait perdu en absence de CO2, par exemple avec de l'azote ou l'oxygène, comme maintenant, la thermosphère, l'exobase, aurait été tellement chaude qu'on aurait perdu rapidement la totalité de l'atmosphère dans l'espace. Donc on voit qu'on n'était pas loin d'un problème. Et puis la même équipe a fait une autre étude assez étonnante qui suggère qu'avec à peu près le même genre de modèle, si on a une planète un peu plus grosse que la Terre, là, on risque un autre problème, c'est que toutes les planètes, tout cela n'est pas très bien compris, mais beaucoup de planètes démarrent avec une épaisse atmosphère d'hydrogène. Alors, c'est particulièrement vrai pour les planètes qui sont loin du Soleil, où il y a vraiment beaucoup de volatiles, c'est-à-dire de gaz, mais c'est aussi vrai pour Vénus et la Terre et Mars. Beaucoup d'hydrogène au départ. Cet hydrogène a été perdu, parce que l'hydrogène est plus léger, les molécules vont plus vite, elles s'échappent plus facilement. Mais d'après leur modèle, il n'y a pas besoin d'être beaucoup plus gros que la Terre pour garder cette épaisse atmosphère d'hydrogène et devenir plutôt quelque chose qui ressemble à un petit Neptune, voire un vrai Neptune. Donc on voit, donc je reviens un peu sur la même conclusion que pour l'histoire de la technique des plaques, il n'est pas impossible que la Terre soit pas loin de la bonne taille. Un peu plus petite, c'est peut-être un problème. Un peu plus gros, peut-être que rapidement on devient une Neptune. Et d'ailleurs, les observations actuelles, donc, sur laquelle je reviendrai brièvement tout à l'heure, suggère que, pour l'instant, on observe plutôt, dans beaucoup de cas, quand on observe des planètes qui ont un rayon un peu plus élevé que celui de la Terre, elles ont une densité très faible et ça ressemble plutôt à quelque chose comme Neptune. Alors, un petit mot sur ce qui se passe. Je vous ai pour l'instant toujours parlé de l'exemple autour du Soleil. Qu'est-ce qui se passe si on s'intéresse à ce qui se passe autour des autres étoiles ? Alors, pour faire un bilan, si je fais le bilan, ça c'est un transparent que j'ai volé à je ne sais plus qui, si quelqu'un peut me le dire, je serais intéressé. Si on fait le bilan des étoiles dans les 32 années-lumière, donc les 10 parsecs autour de la Terre, on voit que on a un certain nombre d'assez grosses étoiles qui font l'étoile A, c'est à peu près une fois, je ne vais pas dire de bêtises, il y a l'astronome dans la salle, 1,3 jusqu'à 2 ou 3 fois la masse du Soleil. Donc il y a une classification très spéciale. Moi, je suis pas astrophysicien au départ, donc c'est AFGK, je connais l'origine, hein, mais qui est un peu exotique. Donc le Soleil est une étoile de type G2, il y en a un certain nombre autour de nous, mais ce qu'il y a surtout, c'est des plus petites étoiles, étoiles K et M, et qui vont être particulièrement intéressantes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bien sûr, plus une étoile est grosse, plus sa température est élevée, plus son flux, le flux radiatif qui a été émis est élevé. Et puis on sait aussi que la durée de vie va être plus longue pour les plus petites planètes qui vont consommer plus lentement leur hydrogène. Alors typiquement, une étoile de type A, je ne vais pas dire de bêtises, mais a une durée de vie de quelques centaines de millions d'années, alors que les étoiles de type M, les petites, qui vont faire à la moitié, un tiers de la masse du Soleil, elles vont avoir une durée de vie qui dépasse peut-être des dizaines, voire des centaines de milliards d'années. Alors, lorsqu'on s'intéresse à la zone de vie autour d'une étoile, on voit que on peut faire des calculs, ce qu'a fait Jim Casting en 93. Déjà il y a un certain temps, eh bien on voit qu'au premier ordre, lorsqu'on regarde à quelle distance se trouve la zone habitable en fonction de la masse de l'étoile, donc vous avez à nouveau la classification AFG ici, 1 c'est le Soleil, voici le système solaire, on voit que la zone habitable, simplement quand la planète est plus petite, plus froide, il faut s'en rapprocher, donc on est ici avec une échelle logarithmique, et à condition d'être assez près, eh bien on va pouvoir de la même manière avoir de l'eau liquide à la surface. Au premier ordre, pas de problème. Alors, les grosses étoiles, on ne va pas trop s'y intéresser. Elles ont une durée de vie courte, etc. Elles sont moins nombreuses. Mais celles qui sont très intéressantes et nombreuses, c'est les étoiles M. En plus, on verra tout à l'heure qu'elles sont plus faciles à observer. Donc, dans cette zone... dans les étoiles M, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est autour d'une étoile M, on doit être vraiment très, très proche. Vous voyez ici, on doit être... Je ne sais pas, si on prend une étoile qui fait un tiers de la masse solaire, il va falloir être à moins d'un dixième d'unité astronomique. Et là, ça peut poser un problème, c'est que là, on va être vraiment exposé par la nature des étoiles M et aussi parce qu'on est vraiment à une proximité physique plus forte, on va être exposé à une très forte activité au niveau du plasma, au niveau du rayonnement extrême ultraviolet. Et là, le problème de stabilité, de conservation de l'atmosphère en lien avec l'échappement, et quand même se pose réellement. Et réellement, récemment, un certain nombre d'articles démontrent que si on est dans proche de la limite intérieure de la zone habitable, c'est quasiment impossible de conserver une atmosphère en l'absence de CO2. Sachant que si on a du CO2, on va être trop chaud puisqu'il va y avoir un effet de serre. Donc, on voit que ça pose un problème. Autre problème autour des étoiles M, problème très bien connu, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est que on est ici en deçà de cette limite, tidal lock radius, c'est-à-dire cette limite, c'est simplement le fait que lorsqu'on est à l'intérieur, de ce côté-ci de cette limite, au bout d'un milliard d'années, dans le calcul qui est fait ici, la planète va se retrouver bloquée par les forces de marée en rotation synchrone, exactement comme la Terre autour comme la Lune autour de la Terre. Elle va toujours on montre toujours la même face à son étoile. Alors, surtout quand on est près d'une petite étoile M et qu'on est au bon endroit, dans de très nombreux cas, on peut montrer, si l'orbite est assez circulaire, que la planète va se retrouver bloquée en résonance. Alors, récemment, il y a des articles qui disent que c'est pas sûr, etc. Mais pour faire simple, c'est quand même un problème. On risque de montrer toujours la même face au Soleil. Et donc, ça peut donner un certain nombre de spéculations. Et je reviendrai là, tout à l'heure sur un exemple de calculs qui ont été faits en ce lien-là. Alors, depuis le début, j'espère que ça n'a choqué personne, mais tout ce que je vous ai raconté là, à part quelques avancées techniques, ne s'appuyait aucunement sur les observations qu'on a, alors qu'on a une révolution scientifique extraordinaire depuis 1995, c'est la détection d'exoplanètes. Alors, comme je vois qu'il se fait tard, je vais zapper une partie que beaucoup d'entre vous connaissent bien, c'est ce problème, alors voilà, c'est pour le grand public ici, je crois que je ne suis pas avec le grand public, ce problème très difficile de la détection, vous savez tous que la détection se fait parce qu'on a un système dynamique, donc on peut détecter le mouvement de l'étoile, on peut détecter des transits lorsque la planète éclipse l'étoile, et on a aussi ces méthodes qui sont très fortement développées ici de l'antigravitationnel. Bref, depuis actuellement, là j'ai fait le bilan hier soir, comme tous les bons orateurs sur ce sujet font quand ils font une présentation, on est actuellement à 830 planètes confirmées, dont 125 systèmes multiples. Ce qui est intéressant quand on voit ce graphe où vous voyez la masse de la planète en fonction de l'année de la découverte, c'est qu'on voit que le temps passant, on est de plus en plus sensible. Au début, on découvrait que des Jupiter ou plus gros, et puis maintenant des Neptunes, et puis on est proche de pouvoir découvrir des planètes de la masse de la Terre et au moins autour des petites étoiles. Je ne vais pas détailler là-dessus, ce n'est pas tout à fait mon sujet. Mais c'est quand même très intéressant. On apprend énormément de choses à partir de ces observations. Ce dont je vous ai montré, c'est ce qu'on appelle les planètes confirmées. Il y a une autre source d'information qui est quand même assez passionnante, qui vient des télescopes spatiaux qui essayent de détecter statistiquement, qui observent, vous savez, 150 000 étoiles à la fois. Là, c'est le cas de Kepler. On en a un français qui s'appelait Corot, qui a été utilisé ici. Là, je vais juste mentionner Kepler. Et on peut regarder, on regarde des dizaines de milliers d'étoiles. 150 000 ici dans cet exemple, on les fixe et on essaie de détecter voir s'il y a des planètes qui passent devant. Et avec ça, on peut faire des statistiques. Et voici. Alors le problème, c'est qu'on risque d'avoir des artefacts. On pense que 15%, ici je vous montre un graphe avec la taille par rapport à la Terre en fonction de la température d'équilibre, ce qui fait qu'on peut tracer ici la zone habitable. On n'est pas sûr que toutes ces planètes existent. Probablement environ 15% n'existent pas. Mais la statistique, s'il n'y a que 15% d'artefacts, est quand même intéressante. Et on voit donc ici qu'on a un certain nombre de planètes de différentes tailles qui sont peut-être dans la zone habitable, de la taille presque de la Terre, un peu plus gros ici, une fois, 1,8 fois la taille de la Terre, et jusqu'à beaucoup plus. Bref, on apprend beaucoup de choses. Et cette révolution-là, si je résume pour nous ce qui nous intéresse, savoir le problème de l'habitabilité, est-ce que c'est probable, nous apprend deux choses. La première chose qui est vraiment une révolution, et qui est de plus en plus vraie chaque mois, c'est que tout indique qu'il y a une grande fraction d'étoiles dotées de planètes, et même de planètes telluriques, et même dans la zone habitable telle qu'on l'a définie de manière standard, une zone habitable assez vaste qui va proche de la Terre à presque Mars. Et actuellement, on n'a pas encore toutes les données qui vont bien, mais quand on regarde la distribution qu'on voit en distance, etc., il y a des articles assez intéressants où on fait une extrapolation raisonnée. On a des belles courbes du nombre d'étoiles en fonction de la distance, du nombre d'étoiles, du nombre de planètes en fonction de la distance. On interpole tout ça et on en conclut des articles récents, 2010, avoir des taux 23%, c'est très précis, avec des grosses barres d'erreur. Des étoiles hébergent une planète de type terrestre à entre 0,5 et 2 je vais y arriver entre 0,5 et 2 fois la masse de la Terre dans une distance closing là dans le truc c'était 0,5 à 3 ou je sais plus quoi. Et puis je vais pas lire le reste mais c'est pareil, une statistique qui indique vraiment que grosse fraction, un tiers, peut-être la moitié, peut-être toutes, les étoiles ont probablement des planètes telluriques et un grand nombre d'entre elles à peu près à la bonne distance au sens large. Donc ça, c'est extraordinaire et c'est on peut quasiment l'affirmer maintenant. L'autre découverte très intéressante qui a été faite par toutes ces mesures, ces observations, c'est que notre système solaire n'est pas du tout typique. On observe plein de systèmes où les orbites sont excentriques, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis on a aussi vu, cette étude des planètes extrasolaires nous a mis en évidence un phénomène qui semble très courant, qui est le fait qu'on a des migrations de planètes lors de la formation des étoiles. La migration, et ce qui fait qu'on a des Jupiters chauds, vous avez tous déjà entendu parler de ça. La migration, c'est très simple, on forme une planète géante loin de l'étoile où il fait froid, où il y a beaucoup de glace et on peut accumuler l'hydrogène et faire une planète géante. Ensuite, elle interagit avec le disque protoplanétaire où il y a d'autres planètes sont en train de se former et les forces de marée ici peuvent faire en sorte que la planète va se rapprocher de son soleil. Alors je vais aller très vite, mais ça veut dire que ça c'est pas trop. Alors on pensait jusqu'à récemment que ça s'était pas trop passé dans le système solaire. Des spéculations récentes assez rigolotes, on va dire intéressantes, suggèrent que le Jupiter a fait un aller-retour. Néanmoins, ça nous oblige à réfléchir aux conséquences du fait que les planètes géantes peuvent bouger et venir jusque dans la zone habitable, par exemple. Alors, une première question qu'on s'est posée, est-ce que la formation de planètes telluriques dans la zone habitable est probable lorsque des planètes géantes ont balayé cette zone habitable? Eh bien, comme elle l'a balayé à une époque où la nébuleuse protoplanétaire n'est pas complètement... où les autres planètes ne sont pas encore formées, il semble que ça ne pose pas de problème. Il y avait un article très chouette de Sean Raymond, qui est un chercheur à Bordeaux maintenant, qui suggérait que, bah oui, ça ne pose pas de problème. Il y a eu d'autres articles depuis, mais je n'ai pas mis à jour mon transparent. Autre question, c'est le fait qu'on peut imaginer que des planètes assez exotiques, plus riches en glace, puisqu'elles ont été formées loin du Soleil, où il faisait plus froid, il y a plus de glace, ont pu se rapprocher, et puis finalement être habitables. Ce seraient des planètes océans. C'est quelque chose qui est cher... Alain Léger, Christophe Sautin, etc. Je vais pas avoir le temps de détailler ce graphe. Mais on spécule que vous avez donc c'est un nouveau type de planète sur lequel vous auriez un océan de 100 km de profondeur qui pourrait être aussi dans la zone habitable. Un autre point très important, c'est qu'il y a probablement, on a détecté déjà de très nombreuses planètes géantes qui sont dans la zone habitable autour d'une étoile donnée. Et donc, alors les planètes géantes sont quand même pas très faciles pour la vie, hein, on imagine bien, il n'y a pas de surface, mais par contre, on peut imaginer que la situation d'être un satellite habitable autour d'une planète géante est quelque chose de très commun. Voilà un vieux graphe qui date déjà de 2005, je pense que c'est une statistique de 2003, qui montre déjà qu'on avait déjà observé à l'époque plein de planètes géantes dans la zone habitable. Donc on imagine que cette situation-là, alors je ne sais pas pourquoi il y a de la glace, mais d'être en orbite autour d'une planète géante est un cas très commun, ça a d'ailleurs inspiré, vous connaissez tous cet exemple, James Cameron pour Avatar, qui a placé sa planète, je sais plus son nom, Pandora, autour d'une magnifique planète géante, ce qui fait qu'évidemment les lunes, les nuits sur Pandora sont extrêmement belles avec cette énorme planète géante juste à côté. Et puis pour terminer, je vais juste vous raconter un exemple d'étude que l'on peut faire dans notre laboratoire avec justement nos modèles de climat tels que j'ai pu vous les décrire. Et pour cela, je vais vous parler du système de l'étoile Glissa 181, qui est quand même un système qui a fait plusieurs fois la une des journaux et qui est tout à fait intéressant. Alors, Glissa 181, c'est une planète qui a été un système planétaire qui a été découvert par le spectromètre ARPS, hein, au Chili. Il y a un certain nombre d'articles ici. Et dans un premier temps, à partir de 2007, en 2005 puis en 2007, on a pu montrer que ce système avait trois planètes. Donc, Glissa 181, c'est une petite étoile à 20 années-lumière, fait à peu près un tiers de la masse de la Terre, hein, donc c'est une étoile M. Et cette étoile héberge, à partir de 2007, on a su qu'elle hébergeait trois planètes, une planète B qui est très grosse et très proche de l'étoile, une planète C qui est plus petite et assez proche de l'étoile, je crois que qui fait à peu près probablement 5 masses terrestres ou un peu plus, et puis une planète D. Alors lorsque l'équipe de Bonfils et Toul ont voulu publier leur article. Ils étaient absolument excités par l'existence de la planète C. Ils ont fait des calculs rapides. Ils ont vu, il ne fait pas si chaud que ça. On va dire qu'elle est habitable. Donc voilà, si vous allez sur... à l'époque, il y a eu un préprint sur Archive, probablement, et qui disait que ARPS, voilà, vous avez... Donc vous voyez la productivité de spectromètre ARPS. C'était déjà le numéro 11. Attends, on doit être au numéro, je sais pas, 30. Numéro 11, An habitable super Earth in a three-planet system. Découverte formidable, qui a fait bien sûr la une des journaux à l'époque, découverte d'une planète habitable en 2007, Une découverte formidable, c'était la première fois. Alors, planète habitable, c'était pas vrai, potentiellement habitable. Alors, vous pouvez pas voir s'il y avait de l'eau liquide, mais elle était apparemment au bon endroit. En réalité, mon collègue Franck Celsis, à Bordeaux, a rapidement vu qu'il y avait quand même un problème, c'est qu'ils n'avaient pas du tout pris en compte les rétroactions dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fait que si vous avez de l'eau liquide à la surface et que vous êtes un peu proche de votre étoile, vous allez évaporer l'eau, ça va avoir un effet de serre et ça va pas fonctionner. Et en effet, si on compare en termes de flux solaire, la position de Gliese 581C par rapport à son équivalent autour du Soleil, on voit qu'elle est nettement plus proche. Elle reçoit nettement plus de flux stellaires que Vénus. Et donc tout indique, dès qu'on fait un modèle où on met de la vapeur d'eau dessus, d'ailleurs on est en train de le faire avec mon postdoc Jérémy Lecomte, que ça marche, ça fonctionne pas. Elle peut pas être habitable. Donc très très sérieusement, l'équipe a changé le titre de l'article qui est devenu Super Earth in a Triple System, et c'est déjà un article extraordinaire, historique. Par la suite, le 30 septembre 2010, une des équipes concurrentes, Stephen Vogt, l'équipe de Paul Butler, a annoncé, toujours dans le même système, la découverte d'une nouvelle planète, Gliese 581 G, qui était pile poil au bon endroit cette fois-ci, un petit peu plus loin que la Terre, au cœur de la zone habitable, un endroit parfait. Alors c'était une grande excitation. Dans les remerciements de l'article, Steve Vogt, qui doit être très amoureux de sa femme, la nomme. Pour lui, elle sera toujours nommée du nom de sa femme, c'est-à-dire Zamina's World. C'est la femme de Steve Vogt. Et c'était formidable, une belle histoire. Et donc, les médias ont titré, voilà, Gliese 581 G, à nouveau, la première planète potentiellement habitable, le monde de Zamina, et partout dans le monde, on a adoré cette histoire. Malheureusement, très rapidement, l'équipe suisse, donc l'équipe de ARPS, et puis ensuite, il y a eu d'autres articles par des statisticiens qui sont intéressés aux données qui avaient été utilisées par Stephen Vogt. Ils ont réfuté cette observation. Ils pensent qu'on ne peut pas démontrer qu'il y a une planète. Pas non plus démontrer qu'il n'y en a pas, mais il n'y a aucune raison de penser qu'il y en a. En plus, il y a de gros indices qui montrent que c'est un artefact lié à des harmoniques de l'observation. Je ne vais pas pouvoir détailler. En tout cas, Zamina's World n'existe plus. Alors j'espère que Stephen Vogt, que je ne connais pas du tout personnellement, n'a pas divorcé ou quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, la planète G n'existe plus. Donc c'était la deuxième fois qu'on découvrait une planète habitable dans le système de Gliese 581. Mais il n'y en avait plus. Alors nous sommes intéressés à une troisième planète, c'est Gliese 581 D, qui est là, qui est assez grosse, 7 masses terrestres au moins, qui est assez loin, et qui pour le coup reçoit pas beaucoup d'énergie, 35% de moins que Mars. Mais, et en plus, elle a un autre problème, c'est qu'elle est autour d'une étoile M, elle est quand même relativement proche, et il est très fortement possible que, un, elle soit en résonance, c'est-à-dire que les forces de marée aient redressé son axe de rotation, ce qui fait que ses pôles sont froids en permanence, il n'y a presque pas d'insolation au niveau des pôles, ce qui fait qu'on peut imaginer que ce sera un piège froid, si vous mettez de l'eau là-dessus, ça va faire des grosses cloudes polaires au pôle et rien ne va bouger, et pire encore, il est très fortement probable, où il est fortement probable, qu'elle va être en rotation synchrone, comme je l'évoquais tout à l'heure, comme la Lune autour de la Terre, mais elle autour de son étoile, ce qui fait qu'elle va toujours présenter la même face à l'étoile et qu'il va y avoir un côté nuit qui va être froid en permanence. Et sur cette base-là, comme elle était déjà froide, elle est déjà loin de son étoile, que les pôles vont être très froids et créer un piège froid pour l'eau, éventuellement pour le CO2, et qu'il y a probablement un côté nuit permanent, on avait tendance à dire que probablement elle n'était pas habitable. Mais finalement, en s'intéressant au sujet, en modélisant le climat là-dessus, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas si mal. Donc, avec un autre postdoc, Robin Wadsworth, nous avons essayé de faire la simulation numérique 3D du climat de Gliese 580D. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a comme atmosphère. Bon, simplement, on s'est dit, OK, quel pourrait être le climat en supposant une atmosphère de n'importe quel mélange avec du CO2, de l'azote et puis de l'eau, s'il y en a. Et donc, est-ce qu'elle est potentiellement habitable? Et on s'est rendu compte que ça marchait pas mal. Pour plusieurs raisons. La première, je ne vais pas détailler là, c'est un peu technique, un peu en anglais, et il est tard. Mais en gros, c'est très simple, c'est que le spectre d'une étoile M comme ça est beaucoup plus rouge. Et la diffusion relais, vous vous souvenez, je vous ai mentionné tout à l'heure que la diffusion relais limite l'effet de serre quand vous avez une atmosphère de CO2. Comme le rayonnement est beaucoup plus rouge, les rayons peuvent rentrer dans l'atmosphère de CO2, ne pas être réfléchis, et chauffer la surface. Il faut dire que c'est assez exotique, hein, les étoiles M. Par exemple, la glace éclairée par une étoile de type M est plus sombre que de la roche. Parce que l'eau dans le proche infrarouge, absorbent très très bien l'énergie. Donc il y a des choses un peu contre-intuitives avec ces étoiles-là. En tout cas, pour ce qui est de l'atmosphère, ça a aidé énormément. Deuxième point pour lequel on s'est rendu compte, c'est que, et ça aussi, ça avait été suggéré par d'autres études, c'est que lorsque vous êtes en rotation comme ça, ralenti par la proximité de l'étoile, en rotation en résonance ou en rotation synchrone, vous avez la formation d'un mécanisme, un régime de circulation atmosphérique qu'on appelle la superrotation et qui transporte très efficacement la chaleur peut-être excessive du côté jour vers le côté nuit. Et on a fait des modèles de ça. Voici le genre d'exemple qu'on a. Là, on prend, vous avez une carte de la température de surface. Vous avez ici, dans le cas où vous avez une résonance 1-1, dans notre jargon, ça veut dire qu'elle est en rotation synchrone, sauf que là, on a pris en compte une excentricité possible, d'où la libration, un peu comme sur la Lune, du point chaud. Et vous voyez que, assez régulièrement, la température peut être au-dessus de 0 degré. Et ça, c'est en supposant 10 bars de CO2 avec un peu d'azote. Et puis, on a fait plein d'autres calculs. Il est tard, je ne vais pas entrer dans les détails. Si on met 20 bars, là, tout devient très chaud. Aucun problème pour avoir de l'eau liquide. On a pris en compte, on a imaginé ce qui se passait aussi avec d'autres résonances. Le cas le plus probable, un peu comme Mercure. Donc là, c'est une résonance 1-2, où vous avez la planète fait deux orbites, fait deux tours sur elle-même lorsqu'elle fait un orbite, etc. On s'est intéressé au cas où on imaginait que la planète c'est une grosse planète quand même. C'était une planète océan, donc il y a un océan partout. On a essayé de simuler quel était le climat. Alors là, ça devient compliqué. Vous avez des nuages de glace, d'eau qui se forment, des nuages de CO2 qui se forment au-dessus. Ça devient tout un folklore climatique, mais on peut simuler avec nos modèles. Et on trouve qu'il n'y a aucun problème si on fait l'hypothèse d'une atmosphère suffisamment épaisse pour finalement, excusez-moi pour le transparent en anglais, en imaginant que la planète a une atmosphère suffisamment épaisse, assez facilement, on peut imaginer une grande gamme de régimes où il pourrait y avoir de l'eau liquide à la surface. Alors bien sûr, on ne connaît pas l'atmosphère, c'est soit une hypothèse. Néanmoins, on a pensé que c'était quasiment la première planète sur laquelle on pouvait ne pas démontrer qu'elle était inhabitable. Donc que c'était, alors on a essayé de trouver un titre à peu près correct, et donc on a annoncé que Gliese 51d était la première planète dans la zone habitable, qui semblait à peu près potentiellement habitable. On n'en sait rien. Ce que l'on sait aussi, c'est que c'est une planète, ce système n'est pas loin, il a 20 années-lumière, il sera quand même propice à des observations dans un certain avenir, et on pourra peut-être déterminer si, peut-être, quelle est la composition de l'atmosphère, si c'est une mini-Neptune, ou au contraire, si c'est une super Terre rocheuse, etc. Bon, j'ai presque terminé. Alors, juste un mot pour vous dire que, on était très fiers de cette découverte. On a voulu faire une annonce au monde. Enfin, le CNRS était très enthousiaste, en tout cas, à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Alors, on a fait la une de CNN, ça a bien marché, j'ai fait des interviews à la BBC, etc. Mais vous n'en avez jamais entendu parler. Et il y a une bonne raison à ça, c'est qu'on est sorti. Le CNRS voulait sortir un vendredi, ils ont dit non, c'est pas bien le vendredi, on va sortir le lundi. Et le week-end, Dominique Strauss-Kahn a été arrêté. Et donc sur CNN, on était quand même à la une de CNN, une grande fierté, on était là, voilà. Mais bien sûr, en France, on n'a pas parlé. Bon, il faut être honnête, ce n'est qu'un modèle. On n'a pas trouvé de planète habitable, on a juste montré que c'était intéressant. C'est un exemple sympa de modélisation, mais depuis, on en a trouvé d'autres. Et ça va continuer, c'est très excitant. Il ne faut pas non plus en faire un plat, on n'a pas découvert grand-chose. Mais c'était assez marrant à faire. Voilà, je vais conclure. Et ma conclusion est la suivante. Déjà, toutes ces découvertes de planètes telluriques, ces statistiques sur les planètes géantes, les super-terres, les planètes telluriques, autour des étoiles M, etc., tout indique, encore une fois, qu'il y a probablement une abondance de planètes telluriques dans la zone habitable. Alors, le pourcentage n'est pas clair, mais on n'est pas à 0,01% autour de chaque étoile, c'est beaucoup plus. Donc, un très grand nombre de planètes rocheuses, potentiellement rocheuses, à une distance à peu près correcte de l'étoile. Alors, si on est optimiste, alors pessimiste, si on est optimiste, pessimiste, si on a envie qu'il y ait des extraterrestres, la Terre est peut-être exceptionnelle. Vous avez vu qu'elle a conservé de l'eau liquide pendant des milliards d'années. Il a fallu la tectonique des plaques, qui est un phénomène, je vous ai dit, assez compliqué. Il a fallu conserver son atmosphère, ce qui n'est peut-être pas évident. Et puis, le Soleil est pas mal, le système solaire est particulier. Comme par définition, nous sommes sur une planète qui a fonctionné, on ne peut pas encore, pour l'instant, savoir si nous avons bénéficié de circonstances exceptionnelles ou pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait qu'il y a d'autres étoiles, d'autres planètes, qu'elles sont bien, etc. Mais on ne sait pas exactement si la Terre est exceptionnelle. Et la question reste vraiment ouverte. comment généraliser nos connaissances de l'univers à partir du moment où on observe l'univers à partir d'un point qui a fonctionné. Alors, peut-être que je suis très chauvin, je ne sais pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que... Alors, la question clé qui se pose maintenant, vous comprenez, c'est qu'est-ce qui contrôle la nature et l'évolution des atmosphères extrasolaires? C'est vraiment ça dont on a besoin de comprendre. Et le système solaire ne suffit pas. On a juste l'exemple de Vénus, de Mars et de Titan, qui est un truc exotique. On n'a pas grand-chose. Si Vénus n'existait pas, on l'imaginerait pas. Si Titan n'existait pas, on l'imaginerait pas du tout. C'est un truc très exotique. Donc, il y a sûrement plein d'autres exemples de mécanismes. Et c'est vraiment la question clé. Je pense qu'avec nos modèles climatiques, on va pouvoir vraiment, c'est pas encore fait, mais progresser dans les interrogations que je vous ai dites, savoir la divergence du climat quand on s'approche du soleil, la glaciation. Ça, théoriquement, on a les outils pour le faire. Ça, par contre, on est loin de le comprendre. Il nous faut des observations. Et je dirais que, donc il y a des progrès à venir en observation, et bien avant que les observations dont nous rêvons tous, qui seraient capables de détecter la signature d'une vie autour d'une étoile, autour d'une autre étoile, sur une autre planète, etc., bien avant que cela n'arrive, moi je suis très impatient pour faire progresser cette réflexion, tarte à la crème, la vie dans l'univers, d'avoir n'importe quelle observation qui nous permettra de nous donner des informations sur les atmosphères autour des autres planètes telluriques. Et c'est des choses qui vont venir, je pense, avec le James Webb Space Telescope, le projet ECHO, sur lequel on travaille ici, beaucoup de gens travaillent là-dessus, ou alors les super télescopes terrestres, etc. Et donc la prochaine étape, c'est vraiment, et je pense que c'est très excitant, c'est de réussir à observer quelque chose, d'apprendre quelque chose sur les autres atmosphères. Et ça viendra avant la détection de vie ou quoi que ce soit, hein. Il faut apprendre... Alors même si c'est autour d'une super Terre qui n'est pas du tout dans la zone habitable, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui fait évoluer les atmosphères. Et c'est ça le message à retenir, c'est que l'avenir proche, quand même, dans les années, les décennies à venir, c'est très intéressant rien que pour ça, même si on ne sera pas encore capable de détecter les signatures potentielles de vie, etc. Voilà, merci.
Merci. Je passe tout de suite la parole à la salle, si quelqu'un a une question à poser, ou plusieurs. Oui, je prends au plus facile, plus près.
Bonsoir, merci. J'aimerais que vous nous disiez deux mots, si c'est possible, sur la façon dont vous élaborez vos modèles.
Oui. Alors, nos modèles, ce sont des modèles qui sont assez analogues aux modèles qui sont utilisés sur Terre pour simuler le climat et prévoir la météorologie. Donc, vous voyez qu'ils marchent très très bien. Et en deux mots, ce sont des modèles qui sont faits de la manière suivante. Ce sont des modèles qui sont uniquement basés sur des équations universelles de physique. On met presque rien d'empirique là-dedans, y compris dans les modèles terrestres. Ils fonctionnent de la manière suivante. Vous avez d'une part un code hydrodynamique 3D qui résout les équations de Navier-Stokes, les équations de la mécanique des fluides autour d'une planète, un petit peu simplifiées parce qu'on peut simplifier un peu. Et ça va nous simuler les écoulements à l'échelle résolue. Et puis, en chaque point de grille, dans le cas où vous avez un modèle à point de grille, donc vous imaginez une planète, on la discrétise, on dit dans le jargon, donc vous la représentez avec une grille, et puis en chaque point comme ça, tous les 200 km, par exemple, on va calculer l'insolation, l'insolation du soleil, le transfert radiatif dans l'infrarouge, le chauffage au niveau de la surface, la conduction de la température dans le sous-sol. Si vous avez un océan, vous allez prendre en compte tout ce qui se passe. Ensuite, vous allez dire, bon, il y a de l'eau, s'il fait froid, ça va condenser. Et tout ça, tout ce que je vous raconte là, va toujours être résolu avec des équations universelles. Même sur Terre, où on dispose d'informations empiriques, on essaye, autant que faire se peut, de ne jamais tricher, entre guillemets. On essaie toujours d'être dans des équations pour que ce soit robuste, pour que ça ait un sens. Et donc, historiquement, depuis une vingtaine d'années, on a adapté les modèles qui avaient été à l'origine utilisés sur Terre, on les a adaptés aux autres planètes, et on a pu apprendre que ça fonctionnait très bien. C'est-à-dire que vraiment, c'est même spectaculaire. Vous prenez un modèle terrestre, une base modèle terrestre, vous changez la composition de l'atmosphère, vous vous mettez autour d'une petite planète, loin du Soleil, vous faites fonctionner, et là, vous avez vraiment quelque chose qui se comporte pas mal comme Mars. Sur Vénus, c'est un peu plus difficile, pour un certain nombre de raisons, mais ça marche pas mal quand même. Et sur Titan aussi, on a eu des bons succès. Et pour toutes ces planètes-là, un certain nombre de succès en termes de prédiction. On dit, ça doit se passer comme ça. On a enfin l'observation, et l'observation confirme ce qui a été prédit par les modèles. Donc, ça nous a donné une certaine assurance, ce qui nous permet, de manière un petit peu ambitieuse espérons pas trop spéculative, de prétendre pouvoir dire que, à partir de ces équations qui sont quand même universelles, qu'on résout a priori pas trop mal parce qu'on l'a testé dans le système solaire, pouvoir simuler des trucs qu'on n'observe pas, sur lesquels on n'a pas d'observation. Alors, ça fait paraît bizarre, mais ça permet quand même de répondre à certaines questions mieux qu'en bricolant autrement.
Oui, bonsoir. Moi, je me posais la question par rapport à la matière extérieure qui rentrerait sur la planète qu'on étudie. Je pense aux météorites, évidemment, et puis aux poussières, ou peut-être aussi, comme on a vu qu'il y avait des planètes qui traversaient la zone habitable, est-ce qu'il n'y a pas des échanges de matière et est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que ça rentre en jeu? Voilà.
Très bonne question. En fait, il faut distinguer la phase où les planètes se forment, en gros. Donc, les planètes géantes, typiquement, on peut imaginer, se forment un peu d'abord, parce qu'elles sont plus grosses, ça va plus vite, il y a une cascade. Je ne suis pas expert du sujet. Et puis là, vous avez encore quand même une nébuleuse protoplanétaire ou des petits planétésimaux, et c'est pour ça que vous avez ces interactions qui permettent la migration, pour revenir à votre question. Alors là, vous avez plein d'échanges de matériaux, vous avez en particulier des composés volatiles, donc du CO2, de quoi faire de l'eau, etc., qui vont s'accumuler sur certaines planètes, etc. Et puis, une fois que tout ça est formé, stabilisé, en tout cas dans le cas du système solaire, et probablement dans le cas de nombreux autres systèmes, vous avez effectivement d'autres échanges possibles, avec des bombardements météoritiques, liés à différents événements, il y a toute une littérature sur le sujet, qui peut aussi jouer un jeu, jouer un rôle, amener de l'eau, expulser une atmosphère, c'est surtout sur les planètes qui sont un peu petites, et sur les choses sur lesquelles on peut débattre, et pour donc conclure, ma réponse, c'est que je ne sais pas quoi dire d'autre. Parce que c'est surtout autour des autres planètes, on manque vraiment d'informations. Et même dans le système solaire, par exemple, le rôle de ce qu'on appelle le bombardement massif tardif, ce qui s'est passé il y a 3,8 milliards d'années typiquement, où il y a eu un bombardement de nombreux astéroïdes et planétésimaux sur les planètes, notamment les planètes telluriques, quel était le rôle de ce bombardement? Est-ce que ça a éjecter de l'atmosphère, ou au contraire amener des composés volatiles de l'eau et du CO2, par exemple, c'est débattu, on ne sait pas.
Donc, on ne connaît pas le bilan, c'est ça que tu veux dire. On sait qu'il y a des choses qui sont venues, mais on ne sait pas si
le
bilan
est positif. On sait qu'il y a eu un bombardement avec des grandes quantités de matière qui sont tombées sur la Terre, et sur la Lune, là, on a carrément les traces évidentes. Oui. Mais bon, dans le cas de la Terre, ce n'est pas facile d'éjecter des choses. Mais je pensais particulièrement à Mars. Mars a commencé probablement avec une atmosphère assez épaisse. Elle a actuellement une atmosphère très fine. Qu'est-ce qui s'est passé? Une des hypothèses, c'est que pendant le bombardement massif, vous aviez des impacts de météorites, d'astéroïdes très importants, et on a pu calculer que certaines astéroïdes, lorsqu'elles percutent, lorsqu'elles sont suffisamment grosses, éjectent une partie de l'atmosphère en arrivant. Et le bilan net n'est pas clair.
Bon, j'ai une question à poser sur les planètes que tu as considérées qui sont autour de petites étoiles. Et il y en a pas mal. Tu avais l'air d'être assez optimiste sur ces conditions d'habitabilité sur ces planètes-là, mais pourtant les étoiles en question sont très actives au point de vue des rayons X, par exemple. Et ça c'est pas génial pour permettre la vie de quoi que ce soit, d'ailleurs.
Oui, j'ai essayé de le mentionner. Je crois qu'il y avait une transparence.
Tu as parlé de l'activité UV, mais pas X. Et ça, c'est un vrai problème.
OK, X.
X, oui.
Bien sûr, c'est un problème. Tout ce qui est, et y compris aussi des flots de plasma, sur certaines de ces, pour donner une image qui est quand même amusante, autour de ces certaines étoiles M, la zone habitable correspond à un endroit où vous avez les protubérances qui passent. Donc vous avez non seulement un flux X, mais vous avez un flux de plasma considérable, et après l'énergie qui est déposée là peut être très important et vraiment entraîner l'échappement de l'atmosphère. Donc c'est un vrai problème. Et ce qui est amusant, alors là je pourrais entendre les détails pour ceux qui suivraient cette actualité, c'est que vous avez vraiment un balancier. Il y a quelques années, on s'est dit, oh, c'est pas possible. Autour des étoiles M, c'est trop difficile. X, ça va s'éloigner. Et puis il y a eu quelques articles, Helmut Lammer, comment s'appelle-t-elle, un article de la femme qui travaille sur SETI, là. Un gros article de référence qui montre que non, ça devrait marcher pas trop mal, finalement, on peut résister à à la perte de l'atmosphère pour un certain nombre de raisons, etc. Et puis récemment, à nouveau, des articles, Feng Tiang et compagnie, qui suggèrent que c'est très difficile, la thermosphère, donc la température de la très haute atmosphère exposée aux rayons X et aux rayonnements ultraviolets est telle que c'est inévitable de perdre une partie de l'atmosphère, sauf si vous avez beaucoup de CO2. J'ai un peu mentionné cela. Alors, je dis ça dépend des calculs. Après, si vous prenez une planète qui va être plus grosse, ça va être plus facile de résister à l'échappement. Le problème, c'est que, et ça ce sera d'autant plus vrai autour des étoiles M, c'est que si vous êtes trop gros, là, vous allez conserver une enveloppe d'hydrogène qui peut être considérable, et donc plutôt être quelque chose qui ressemble à Neptune. Et on se pose la question s'il y a une place entre les deux, entre la perte totale de l'atmosphère et devenir un Neptune ou un mini-Neptune. Et ce qui fait d'ailleurs que certains chercheurs spéculent sur un sujet dont je n'ai pas parlé, c'est l'habitabilité des planètes avec une épaisse atmosphère d'hydrogène. Et elle n'est pas nulle, et elle est assez intéressante. Quand l'atmosphère d'hydrogène est très épaisse, ça ne fonctionne pas bien, parce que Neptune, il n'y a pas de surface, en fait. Par contre, sur une planète rocheuse qui a accumulé des milliers de barres d'hydrogène et qui perdrait lentement son hydrogène, à un moment donné, vous allez arriver à un stade où l'effet de serre de l'hydrogène, il faut savoir que l'hydrogène a un bon gaz à effet de serre pour un certain nombre de raisons un peu compliquées, eh bien vous allez pouvoir avoir de l'eau liquide, mais de manière transitoire. Voilà.
Il faut le temps quand même. Merci. Un commentaire et une question. Commentaire d'abord. Si je résume, c'est vive le CO2. Vous n'allez pas faire plaisir aux écolos. Maintenant, ma question plus sérieuse. À propos des migrations dans les planètes extrasolaires, pour des étrangers, on est aussi une planète extrasolaire, nous, pour ceux qui sont très loin. Est-ce qu'il est possible que dans le système solaire, Jupiter migre vers l'intérieur du système solaire ?
Bon, j'avoue que ce n'est pas mon domaine de spécialité.
On pourrait imaginer, comme ça a l'air très courant, comme phénomène.
Voilà. À l'origine, avant 1995, en gros, personne n'avait, que je sache, personne n'avait spéculé sur la possibilité de migration avec ces interactions avec la nébuleuse protoplanétaire. Ensuite, il y a eu quelques années, un article de l'équipe de Nice Model, de Morbidelli et compagnie, avait montré que une légère migration pouvait jouer un rôle dans l'évolution. Et puis plus récemment, ils ont même fait un article tout à fait intéressant qui suggérait que Jupiter aurait vraiment migré assez tôt, bien sûr, au moment de la formation des planètes, jusqu'à migrer et se serait approché jusqu'à peut-être, je me souviens plus exactement, mais l'équivalent d'une unité astronomique, on va dire, à l'ordre de grandeur, au niveau de la Terre, puis serait reparti dans l'autre sens. Alors pourquoi ce modèle, cet article est quand même est particulièrement intéressant, c'est qu'ils ont montré que ce phénomène, qui est très probable, expliquerait très très bien pourquoi Mars serait beaucoup plus petite que Vénus et la Terre. Et ça s'expliquerait assez bien avec cette migration-là. Mais j'avoue, sans être spécialiste, on peut s'attendre à ce que d'autres équipes, et aussi nos amis de Nice, continuant leurs recherches, trouvent d'autres solutions, d'autres hypothèses pour la formation de ces différentes planètes, et y compris des scénarios où les planètes géantes migreraient en tout début de la formation du système solaire. Mais je m'arrête là parce que c'est vraiment pas ma spécialité.
Je reviens sur cette fameuse formule là qui donne la probabilité d'avoir un système comme la Terre dans la galaxie. Alors il y a 100 milliards, mettons, de Soleil. Est-ce que cette formule a été reprise? Parce que d'après ce que j'avais, moi, étudié et calculé, en fait, la probabilité est de 1, 10 puissance moins 9, donc c'était nous, en fait, la probabilité. Alors, est-ce que c'était repris ?
Deux réponses. La première, premier point qu'il faut souligner, c'est que le premier terme, et ça c'est une révolution, est maintenant presque connu. La proportion... La fréquence de planètes telluriques autour des autres étoiles est très élevée. Donc, premier terme, très élevé. Le deuxième terme, c'est celui dont j'ai parlé aujourd'hui. La probabilité que la planète soit habitable avec de l'eau liquide, pour faire simple. L'équation d'origine n'est pas tout à fait comme ça. J'ai essayé de vous expliquer que ce terme-là a encore été un sujet de très grande incertitude, mais que, en observant, je pense, en apprenant, en observant d'autres atmosphères, même si elles ne sont pas du tout habitables, dans un avenir relativement proche, on va pouvoir améliorer l'estimation de ce deuxième terme. Donc savoir s'il est probable qu'une planète soit propice à l'eau liquide, etc. Et les autres termes, ils sont très méconnus. Il se trouve que, ça a été mentionné tout à l'heure, on a fait un atelier sur l'équation de Drake. Alors en science, en astrophysique, l'équation de Drake, c'est limite un petit peu exotique, parce que c'est SETI, la recherche de l'intelligence... C'est plus à la NASA, c'est toujours un peu... Cela dit, c'est un moyen très, très amusant et efficace de réfléchir à ce que l'on fait. Et c'est un peu le fil rouge, finalement, de ma présentation. Mais je dois dire que tous les autres termes sont complètement méconnus. Moi, je pense quand même qu'il n'est pas impossible que, maintenant qu'on sait qu'il y a beaucoup de planètes, qu'il y ait quand même un certain nombre de planètes avec de l'eau liquide sur des longues durées, vu le nombre total qu'il y a. Et tous les autres termes, on ne peut pas les savoir du tout. C'est-à-dire la probabilité que la vie émerge, qu'elle évolue, on n'en a pas la moindre idée. Donc là, je pense qu'on porte pendant très longtemps, on ne saura pas à l'estimation. Voilà ce que je peux dire sur les
questions. Oui, à ceci près que quand même que tu mélanges un peu la notion de vie et la notion de civilisation. Hein. De temps en temps, tu parles de civilisation extraterrestre, ça veut dire civilisation quand même, non ?
Mais en fait, c'est vrai que quand on parle de vie, au début, j'ai simplifié l'affaire en disant vie égale eau liquide. Et puis, il faut ajouter une nuance dans la discussion, et c'est vrai que j'ai pas été très clair. Le fait est que ce qui nous intéresse aussi, c'est une vie déjà détectable. Et détectable, pour nous, dans le consensus actuel en astrophysique, en astronomie, ça va être une planète pour laquelle on pourra détecter des biosignatures éventuellement dans l'atmosphère. Donc, une vie qui sera capable de modifier son environnement de telle manière, c'est le cas sur la Terre de manière évidente, oxygène, ozone, méthane, bref, modifier son environnement d'une manière détectable depuis une autre étoile, détectable depuis la Terre. Et ça met certaines contraintes. C'est pour ça, par exemple, qu'on écarte assez facilement, sans être trop chauvin, les planètes sur lesquelles vous avez de l'eau liquide sous une croûte de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur, dans un noir absolu, etc. Il faut quand même de la photosynthèse, il faut de l'énergie pour modifier son environnement. Et en plus, quand on est sous la glace, c'est dur à détecter. Et puis, quelque part, quand on spécule là-dessus et qu'on réfléchit même à une évolution qui arriverait jusqu'à une civilisation, une intelligence, eh bien, on voit qu'il faut du temps aussi et on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Mais c'est vrai que la vie existait sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, probablement, ou 3,3 milliards d'années. Mais cette vie avait déjà probablement modifié l'environnement. Donc on pourrait la détecter, mais par contre, on ne peut pas échanger de messages d'une manière ou d'une autre.
Voilà. Dernière question ? Oui.
Oui, formidable exposé. Une question, on n'a pas du tout parlé de magnétisme. Et le magnétisme a l'air d'avoir de grandes conséquences sur les flux qu'on peut recevoir de l'étoile qui a les planètes. Hein. Et puis, ce magnétisme, Mars n'en a plus. Hein, dans le premier milliard d'années de sa formation, il a perdu son magnétisme. Et il paraît que c'est ça qui a fait disparaître toute possibilité de vie sur Mars. Alors que nous, on est protégés par un bouclier magnétique. Maintenant, en matière de climat, est-ce que le magnétisme a un rôle est important et qui pourrait favoriser le maintien de l'eau, je ne sais pas quoi, la vie ? Donc ce magnétisme, il a une grande importance et j'arrive pas à bien voir quel peut être son rôle en matière de climat et de vie.
Alors, dans mes transparents versions, quand je faisais peut-être une conférence un peu équivalente il y a un ou deux ans, j'avais quelques mots sur le magnétisme. Et effectivement, parce que quand on s'intéresse au cas de Mars, on a souvent évoqué... Alors Mars est une planète un peu intermédiaire, c'est-à-dire que l'échappement simple, uniquement par chauffage, par le Soleil, et mouvement thermique des molécules n'est pas efficace. Il faut d'autres mécanismes un peu compliqués, qu'on comprend mal et qu'on pense d'ailleurs qu'ils sont assez peu efficaces, pour éjecter l'atmosphère de CO2 dans l'espace. Et ces mécanismes sont contrés lorsque vous avez un champ magnétique, parce que ça dévie On pensait, disons, que ces mécanismes étaient contrés lorsque vous avez un champ magnétique, parce que ça dévie le vent solaire, le flux de protons typiquement. Et comme sur Terre, vous avez vraiment une magnétosphère caractéristique qui protège, on va dire, l'atmosphère d'un bombardement de molécules. Cela dit, on peut mettre un peu un bémol, pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour la Terre est suffisamment grosse, elle n'a pas de problème à conserver son atmosphère. Elle n'aurait pas de champ magnétique, ça arrive de temps en temps, à mon avis, quand vous avez une inversion de champ magnétique, il ne se passera pas grand-chose. Vous avez juste... si vous voulez, Vénus n'a pas de champ magnétique, voilà, on va dire ça comme ça, Vénus n'a pas de champ magnétique, et elle n'a pas perdu du tout son atmosphère, parce qu'elle est suffisamment grosse, et l'échappement lié à... Le champ magnétique ne protège pas l'atmosphère à ce point-là. Ça a quelques effets sur les flux qui arrivent, mais quand vous avez une atmosphère, vous n'êtes pas bombardé par des ions du vent solaire, donc vous n'avez pas de problème. La deuxième raison, c'est que sur Mars, d'abord, on n'est pas si sûr que ça du rôle du champ magnétique. Des travaux récents montrent même que quand on simule... le comportement du vent solaire à proximité d'une planète comme Mars en l'absence de champ magnétique, vous avez un espèce de champ magnétique induit qui va finalement former une protection quand même et dévier le, le champ magnétique. Ça, ce sont des propos que tiendrait par exemple mon collègue François Leblanc, qui est au Latmos, à Jussieu aussi. Et bref, c'est beaucoup moins clair qu'avant. L'histoire, je pense, un peu simple, que Jean-Pierre Bibring adore, par exemple, si vous avez entendu parler de Mars, que le champ magnétique s'est arrêté, que l'atmosphère s'est échappée sur Mars, n'est pas si clair que ça. Et puis, de toute façon, sur les planètes un peu plus grosses, où les gravités plus élevées, c'est pas si important que ça. Bref, on n'en parle plus trop. Cela dit, si ça vous intéresse, je peux vous dire que l'article récent que j'ai mentionné au sujet de la tectonique des plaques sur les super-terres a tout un chapitre sur le magnétisme et suggère que sur les super-terres, c'est très dur d'avoir un champ magnétique, un peu pour les mêmes raisons qui font que c'est très dur d'avoir de la tectonique des plaques. Donc voilà ma réponse pour le champ magnétique. Alors, pour ce qui est de l'impact du champ magnétique sur le climat, on adorerait comprendre quelque chose et montrer qu'il y a quelque chose, mais on n'a pas d'observation qui le suggère et on n'a aucun mécanisme physique qui pourrait mettre un lien. Donc pour l'instant, on n'a pas de raison de... On aimerait bien, ce serait intéressant de trouver un mécanisme, mais pour l'instant, on n'a pas de raison de penser qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens-là, influence du champ magnétique, voire même du vent solaire sur le climat.
Bien, merci François Forget.